Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Nous sommes aujourd'hui dans le magazine du midi avec Sally Campusano de la compagnie El Poudou pour parler d'un projet, donc un projet qui a été réalisé il y a 2 ans sur la notion de la question de la fin de vie. C'est un projet que Sally, tu as réalisé avec le centre hospitalier Aiguille Kera et qui a donné lieu à un podcast dont on écoutera quelques extraits dans l'émission. Alors peut-être avant de parler de ce projet, Sally, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices?
Oui, alors bon, et je suis directrice de la compagnie des théâtres Le Poudou, c'est une compagnie basée à Briançon. Et avec la compagnie, on fait des projets de création et diffusion de spectacles. Et on a aussi un autre volet des médiations culturelles et où on profite pour développer des projets avec différentes structures. Donc, on donne des cours, par exemple, au lycée, etc. Mais aussi, on développe ce type de projets comme qui donnera les croquettes aux chats avec les centres hospitaliers d'Aiguilles. Et c'est des projets un peu faits sur mesure. Et c'est des projets de création, des co-créations avec différents types de publics.
D'accord. Donc, ça, t'emmènes plusieurs. C'est selon les personnes qui viennent te chercher ou c'est toi aussi qui vas?
Non,
c'est plutôt
les demandes. Oui, ça dépend. Ça peut être dans les deux sens. Et par exemple, on a fait des projets avec, à l'époque, Pôle emploi, France Travail. Avec l'hôpital aussi, on a travaillé 2 fois. Mais ça dépend, en fait.
D'accord. Mm-hmm. Et comment ça s'est passé avec l'hôpital de Aiguille Kera?
On avait déjà travaillé avec eux pour un autre projet. Et on avait fait une création scénique avec les résidents de l'hôpital. Et puis, l'année suivante, en 2024, ils m'ont appelé parce qu'ils avaient envie de travailler autour de cette question de la mort, de l'accompagnement des fins de vie. Mais ils voulaient faire un projet dans lequel ils puissent participer tous les gens de l'hôpital, les patients, les résidents. En plus, cet hôpital, il y a 2 pôles, il y a l'EHPAD, plus les résidents de l'hôpital psychiatrique. Et donc, l'idée, c'était aussi que les corps médicaux puissent participer, les soignantes, tout le monde. Et pour ce projet, je ne travaillais pas toute seule, je travaillais avec ma collègue Sandra Laneda. Et toutes les deux, on est plongé dans les sujets et on a appliqué un protocole de travail qu'on applique souvent pour les travaux de création de la compagnie.
D'accord, on va revenir sur ce processus-là. Déjà, toi, donc quand ils t'ont parlé de ce projet, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, personnellement aussi, ou en tant qu'artiste, à y répondre à cette demande?
Alors, je disais tout à l'heure, quand je présentais les livres, que la vie parfois est mystérieuse, on ne comprend pas tout. Et moi, j'étais pas spécialement proche de ces sujets. Même si ça m'est touchée, comme tout le monde, j'avais des idées par rapport à ça. Mais l'année 2024, j'ai traversé moi-même un processus très compliqué, d'accompagnement d'une fin de vie. Dans ce cas, c'était mon père qui est tombé malade et qui était au Chili, mon pays d'origine, et il a passé 9 mois en soins palliatifs. Au début, il était en état végétatif, après il s'est réveillé. Donc c'était une année très, très compliquée qui m'a confrontée à toutes ces questions et toutes ces thématiques de manière très personnelle. Et quand j'étais au milieu de tout ça, ils m'ont appelé de l'hôpital pour me proposer ces projets.
Ah oui.
Je ne m'attendais pas du tout à qu'ils soient. Pour ça, en fait, c'était vraiment le hasard. Et là, je me suis posé la question de faire ou pas les faire, parce que je n'étais pas bien non plus, donc je ne savais pas comment ça pouvait m'affecter. En plus, il faut penser que quand on va faire ses résidences à l'hôpital, on s'enferme dans l'hôpital pendant une semaine pour travailler. Donc, c'est aussi, j'étais déjà bien plongée dans tous les milieux médicaux, hospitaliers, donc c'était un peu replongée dans ça. Et finalement, je me suis dit, c'est une bonne manière aussi d'apprendre d'avoir accès à des informations qui, d'habitude, quand on est accompagné en patient, on n'a pas forcément. Donc, ouais. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée.
D'accord. Et donc, tu t'es dit, let's go, on y va, on fonce.
Ouais.
Toi, tu y allais avec une forme d'attente, dans ce cas-là, personnelle peut-être ? Si je peux te poser la question, bien
oui.
sûr.
Oui, pas... en fait, c'est surtout que je pense que quand on est confronté à ces situations un peu limites, moi, j'étais un peu perdue. J'étais perdue et c'est surtout, j'étais confrontée à une demande de mon père qui voulait mourir. Et qu'au Chili, comme ici, l'euthanasie n'est pas légale, ce n'est pas possible. Et j'étais confrontée à ce qu'on appelle les soins palliatifs, l'accompagnement des fins de vie, les directives anticipées, etc. Tout c'est un tas de choses que moi, je n'avais pas côtoyées avant, que je ne connaissais pas les termes, tout ça. J'apprenais. Et dans tout ça, il y avait la demande de mon père aussi. Donc, je ne savais pas quoi faire avec ça, comment le gérer, quoi faire. Et donc, mon attente, c'était vraiment d'aller voir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils pensaient les gens, qu'est-ce qui existait comme information. Pour me réconforter aussi avec les idées que j'avais. Et penser, tu vois, vérifier si j'étais dans les bons chemins, parce qu'on ne sait pas.
Mmh. Oui, et pour toi aussi, c'est toujours très personnel.
Oui.
Et alors, donc, tu as accepté ce projet. Et donc, tu disais que c'était une résidence d'une semaine dans le centre hospitalier.
Oui.
Avec les soins palliatifs.
Oui. Et on avait déjà travaillé comme ça pour d'autres projets, la compagnie, avec Sandra. On crée un questionnaire. C'est pas un questionnaire scientifique, très protocolaire. En fait, c'est un questionnaire sensible.
Ok.
Et parce que nous, on travaille avec la compagnie beaucoup sur le recueil des témoignages. Mais une façon de comment façonner ces témoignages, c'est à partir des questions ciblées. Et ces questions prennent forme avec un questionnaire. Ces questionnaires, je crois qu'il y avait à peu près 50 questions. Mais ces questionnaires, c'est guide une conversation avec quelqu'un. Donc, c'est un chemin, c'est une construction. C'est pas juste des questions au hasard. Il y a une logique, en fait, des étapes. Et dans ces cas-là, ces questionnaires, il y avait, on va dire, on allait de la lumière à la mort. Et on parlait de la vie pour arriver à parler de la mort avec
D'accord.
les gens.
Ce qu'on retrouve dans le podcast, d'ailleurs, final.
Oui, c'était l'idée. Parce que on parle pas de la mort comme ça, on parle de la mort est violente et douloureuse parce qu'elle nous arrache la vie, donc on peut pas parler de la mort sans parler de la vie.
Et ben je vous propose qu'on écoute un extrait qui parle de la vie du
okay,
podcast.
Parfait.
La vie en fait c'est une suite de petits ou grands bonheurs et son contraire, c'est-à-dire une suite aussi de petits ou grands malheurs.
La vie, c'est de la naissance à la mort.
C'est croire en Dieu, la vie. La vie, c'est d'être heureux, c'est d'être en forme déjà, principal, en bonne santé. Voilà.
C'est à chanter. La vie, c'est à chanter.
Pour moi, il n'y a pas une vie. On peut vivre plusieurs vies.
C'est d'être conscient de ce que l'on a et de ne pas toujours chercher quelque chose d'autre. Et vivre sans doute dans le moment présent. Et faire preuve de résilience aussi.
Ben, ça commence par un début et ça a une fin. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie.
La vida es un espacio entre dos muertes.
que la vie est un espace entre deux morts. Entre deux états de mort. Voilà.
Je trouve que vieillir, c'est beau parce que quand on vieillit, ça veut dire qu'on vit, quoi. Et en fait, il y a beaucoup de résidents, des fois, bon, après, ils ont la vie qu'ils ont eue, mais j'ai 96 ans, tu sais. Bah ouais, mais en fait, moi, je leur réponds, c'est beau. Parce qu'il y a des gens qui auraient aimé vivre jusqu'à cet âge-là, ils n'ont pas eu cette chance, des accidents ou autre. Hein. Mm-hmm. Mais du coup, voilà, je trouve que vieillir, c'est grandiose parce que même si ça n'a pas été tout rose et que c'était des montagnes russes, on a vécu, quoi.
Donc ça, Sally, c'est un extrait du début du podcast où
oui,
vous parlez plutôt de la vie. Ces voix qu'on entend, ce sont donc des voix de plein de personnes qui, du centre hospitalier,
oui,
soignants, patients. Tu disais tout à l'heure que vous aviez vraiment interviewé tout le monde.
Oui, on a passé une semaine, je ne me souviens pas. Finalement, je crois qu'on a interviewé à peu près 70 personnes pendant une semaine. Et voilà, des patients, mais aussi des soignants, des gens du corps médical, etc. Et après, avec tout ça, toutes ces réponses, tous ces registres, on a créé un collage poétique,
un collage
à partir des réponses des gens. Donc, c'est pour ça que les podcasts, ce n'est pas juste une suite. Là, pour la radio, on a sélectionné un peu des morceaux plus longs, mais parfois, il y a des voix qui s'entremêlent, des petits trucs, des petits étincelles, en fait, des respirations, parfois, qui racontent plus que les paroles.
Et donc, si c'est poétique et du coup plus sensible, qu'est-ce que vous, toutes les deux, avez voulu transmettre à travers ce podcast ?
Je pense que c'est surtout les visions diverses qu'il y a autour de la fin des vies et que même si on est tous confrontés à ça et qu'on sait que c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, que ça va nous arriver soit à nous et à nos proches, on a tous une façon très différente de s'approprier de la question. Je me suis rendu compte que si on peut faire un peu des généralités, que voilà, que c'est jamais bien, mais par exemple, les gens qui étaient plutôt atteints des maladies mentales, c'est des gens qui avaient beaucoup de peur de la mort, en général. Donc, ils étaient plus centrés sur ça, sur la peur de mourir et sur la douleur. Les gens qui étaient à l'EHPAD, c'était plutôt les regrets de la vie, en fait, de sa vie d'un temps. Mmh. Et de sentir, s'ils étaient là, c'est parce qu'ils avaient déjà perdu des gens de leur entourage. Donc, un peu, il y avait beaucoup de tristesse par rapport aux pertes déjà vécues et des choses qui n'ont pas pu être abouties jusqu'au bout. Donc ça change beaucoup. Et après, les soignants, c'est une autre histoire. Donc la vision par rapport à la mort est très 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 différente selon les gens, et je pense que c'est ça que qu'on a voulu avec Sandra un peu et mettre dans les podcasts, en fait.
D'accord. Effectivement, il y a beaucoup de voix et vous parlez de plusieurs sujets, donc en partant de la vie, dont on vient d'écouter un extrait, jusqu'à la mort. J'aimerais quand même revenir, puisque au préalable, pour un peu contextualiser finalement ces voix qu'on entend et leur sensibilité, ce qu'ils transmettent, c'est tout ce contexte. Tu parlais tout à l'heure de directives anticipées, il y a tout le personnel aussi,
de soins palliatifs.
Voilà, moi, il y a d'autres mots qui me viennent, mais je pense qu'on ne les a pas encore évoqués, donc je ne vais pas les donner maintenant. Est-ce que tu peux quand même nous recontextualiser ça, ce qui se passe à ce moment-là?
Oui, en fait, pour les projets, on a dû se renseigner, apprendre. Et pour l'accompagnement, dès la fin des vies, et même pour tout le monde, il existe des documents qui s'appellent les directives anticipées, qui c'est un document dans lequel on peut dire à tout moment de notre vie, on peut les faire même quand on est en bonne santé, dire moi je voudrais mourir comme ça, à l'hôpital, à la maison, je voudrais, si je suis malade, être soignée de telle ou telle manière, si je sais que j'ai une maladie grave, je n'ai pas envie d'être réanimée, je ne veux pas des massages au corps, je refuse un tel traitement, etc. Et ça, d'habitude, on pense à ça juste quand on est hyper malade, mais en fait, on peut les faire avant. C'est quelque chose qui existe, c'est un droit, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est toujours obligatoire pour les corps médicaux de les proposer, mais c'est pas obligatoire pour les patients de les faire. Ça, c'est important. Et cette différence. Et puis après, il y a aussi des équipes, parce que quand une personne est malade, il y a les malades, la famille, les proches, mais de cette équipe, on va dire, ils font partie aussi les soignantes, les médecins, les infirmières, les gens qui accompagnent, psychologues. Donc, il y a les soins palliatifs. Et pour les soins palliatifs, les gens qu'on a interviewés nous disaient, pour nous, notre travail, c'est accompagner la vie. Ce n'est pas accompagner les chemins vers la mort, c'est accompagner la vie de sa personne au moment présent.
Ça, c'était important. J'ai ressenti que c'était important pour le personnel soignant.
Oui. Parce que
c'est des nuances.
C'est des nuances. Je pense que c'est quelque chose qui aide aussi à faire son travail, avec pas dans la défaite, même si on sait quel va être le résultat et que la mort, c'est la fin. Mais c'est dire que voilà, qu'elles sont là ou ils sont là pour les moments présents, pour ces bouts de chemin des personnes et pour faire en sorte que ces bouts de chemin, ça les soit les mieux possibles. En fait.
D'accord. Bien, je propose qu'on écoute un extrait, parce que dans ces entretiens que tu as fait en amont, et notamment dans ceux avec le personnel soignant, il y a aussi des questions sur eux, comment, enfin leur perception de leur travail aussi. Mm-hmm. Donc je propose qu'on écoute un extrait, je ne le commente pas tout de suite, on le commentera après.
Pour les, par exemple, dans les congrès de soins palliatifs, c'est quelque chose qui revient souvent, cette notion d'accepter une part d'impuissance. Si on veut, en tant que soignant ou en tant qu'intervenant ou proche, même absolument faire quelque chose et que ça se passe bien, en fait, d'une mort idéale, eh ben, on va buter parfois contre une réalité.
Déjà, accepter, c'est peut-être, enfin, que la mort fait partie de la vie, quoi. Et on est dans une société où on cache beaucoup la mort, où on la repousse.
C'est un extrait un peu court, mais dans lequel ça me faisait penser à ça, à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a à la fois l'acceptation de la mort, mais avec cet aspect de la vie. La mort fait partie de la vie. Et ce qu'on entend aussi, c'est que c'est pas facile d'accepter la mort, que c'est pas forcément visibilisé. Et là, ça me faisait penser que dans ton podcast, c'est un peu ce que tu fais finalement, de visibiliser toutes ces questions.
Oui, exactement. C'était l'idée aussi, c'est de dire, moi, comme j'étais en plein dedans aussi, de me dire, en fait, je n'étais jamais confrontée à ça. J'avais aucun outil pour faire face à ça. Et parce qu'on est vade. Et c'est aussi tout à fait normal, parce que quand on vit, on n'a pas envie de penser que ça va finir. C'est une espèce de mécanisme psychologique, en fait, de bloquer. La mort. Parce que voilà, qu'on n'est pas éternel. Ça, on les bloque, on les sait, mais on les bloque. Parce que sinon, on ne pourrait pas vivre. On ne pouvait pas vivre avec enthousiasme, avec passion. On ne voudrait pas construire des choses. Parce que sinon, voilà, c'était très lisse. En se disant, voilà, dans tous les cas, ça va finir. Donc, c'est tout à fait normal. Mais je pense aussi que dans nos sociétés actuelles, on a trop effacé ça et on fait tout pour maintenir la jeunesse, pour pas accepter les passages de la vie. On vieillit, et même si on vieillit, on a envie de faire les mêmes choses qu'on faisait quand on avait 20 ans. Il y a une espèce de non-acceptation, en fait, de la vie qui passe. Et je pense que c'est important de pas vivre dans la dépression parce qu'on sait que ça va finir, mais vivre en conscience que comme ça va finir, il faut bien vivre. Et là, je pense qu'il y a des nuances aussi, et je voulais civiliser ou voilà, peut-être militer un peu pour ça aussi, quoi.
Oui, oui. Et puis dans la question de l'acceptation, il y a accepter la mort, mais il y a accepter aussi les conditions dans lesquelles la mort peut se passer. Ça me fait penser à un extrait du podcast. Je propose d'écouter ce témoignage d'une personne.
Oui.
Ah, mais moi, je veux mourir d'un coup. Je veux pas... Après, c'est très égoïste, hein, parce que je sais que moi, au niveau de ma famille, ça sera hyper compliqué. Mais... Ah oui, c'est... Non, un paf. Tac. Pas le temps de dire ouf. Pas le temps d'avoir peur.
Malgré le travail qu'on peut faire pour accompagner les personnes en fin de vie, moi, je sais même pas ce que j'aimerais pour la mienne.
C'est pas imaginable en ce moment. J'ai pas encore l'impression d'être allée jusqu'au bout de quelque chose.
Voilà, non, pas du tout.
Ouais, je veux pas d'acharnement, et par contre, on m'envoie toutes les drogues possibles. Je veux pas souffrir et je veux pas... Voilà. Je veux pas être un poids pour...
Quand j'étais enfant, je disais que je voulais mourir dévorée par un tigre, alors... Je sais pas pourquoi, j'avais dû faire un rêve comme ça. Juste L'idée qui me vient, c'est que pour moi, mourir, c'est mourir dehors. C'est-à-dire jamais dans les murs. Je crois que c'est pour ça aussi que j'ai une forme de... un peu de détestation de se mourir à l'hôpital, mourir... Même mourir dans un lit, pour moi, c'est pas la place où... c'est pas l'endroit où on meurt. Pour moi, on meurt, je sais pas...
Pas mourir dans la souffrance, ouais.
Ouais, mourir en paix.
Envoie-nous une carte postale.
Donne-nous un signe de l'au-delà. Qu'est-ce qui se passe?
Fais-nous un signe. C'est comment, fais tomber quelque chose. C'est
comment? Oui. Alors, ma fin de vie, moi, j'aimerais pouvoir mettre fin à ma vie quand je le souhaiterais, en fait. Et en aucun cas, je souhaiterais aller en EHPAD, par exemple.
Ouais, quelques extraits sur des personnes voilà, qui en parlent de comment ils veulent mourir. Le premier, moi, m'avait fait sourire, évidemment. Hop, paf, comme ça, oui. J'imagine tout le monde peut-être rêverait de mourir comme ça. Enfin, j'en sais rien, mais ça paraît quand même plus idéal que dans d'éventuelles souffrances. Toi, ça, t'en as retiré quoi de ces retours-là?
En fait, c'est ça qui est intéressant, parce que dans l'extrait d'avant, il y avait voilà, des gens, des soignants qui disaient il faut accepter l'impuissance, c'est-à-dire pour travailler dans ces milieux-là, en soins palliatifs, en fin de vie, etc., il faut accepter qu'on ne peut pas soigner. Donc, ça va un peu en contre, je trouve, du travail des médecins qui, d'habitude, ils font tout pour soigner à tout prix. Il y a un moment qu'on accepte qu'en fait, ça, c'est pas possible. Donc, on fait tout pour que c'est, voilà, que la personne qui va mourir ou qui est en fin de vie ou qui ne savent pas si les traitements vont fonctionner ou pas, puisse les vivre de la manière plus calme, informée et respectueuse possible. Et après, il y a une confrontation là avec ce qu'on attend de la mort. Parce que oui, comme disent les gens et les soignants, ils confirment, tout le monde dit « j'ai envie de mourir vite, accompagner ma famille d'un seul coup, sans souffrir, sans perdre l'argent, de manière pas très violente, voilà, la mort idéale ». Mais sauf que la plupart du temps, ce n'est pas ça le cas. En fait, les gens, ils meurent dans la souffrance, dans la douleur. Et en général, c'est long. Ce n'est pas très court. Voilà. Et ça, on a du mal à accepter ça.
À l'entendre même.
À l'entendre même. Et moi, il m'avait marqué aussi la phrase d'une soignante qui avait dit « Dans tous les cas, la mort est toujours violente ». On ne peut pas être violente parce que ça nous sépare des gens qui nous sont chers. Donc, même si on est apaisé avec l'idée de la mort, il y a des croyances religieuses et tout ça, c'est toujours douloureux pour quelqu'un.
Pour ceux qui restent.
Pour ceux qui restent et pour celui qui part. Si la conscience qui part et qui laisse, par exemple, les gens, quand ils sont jeunes, qui laissent des enfants, qui laissent des situations pas résolues, c'est douloureux.
Et donc, ça, c'est cette acceptation-là, elle est accompagnée par les soignants? C'est quelque chose dont vous avez parlé? C'est vrai que ça apparaît pas dans le podcast.
Oui, elle nous disait que ça dépend. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ne veulent pas du tout parler. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Il y a des gens qui ne veulent pas l'accepter. Il y a des familles qui interdisent de parler du sujet. Donc, elle disait aussi, les soins palliatifs interviennent souvent quand il y a un souci, c'est-à-dire quand il y a une confrontation des visions de comment prendre en charge cette situation. Et quand tout le monde est d'accord, en général, il n'y a pas besoin qu'il y ait des soins palliatifs, des psychologues, des gens qui accompagnent. Mais quand il y a une confrontation, c'est assez souvent, Et là, ils sont là, oui, pour accompagner, mais ça va dépendre beaucoup dans quel stade. Il disait, la personne qui accompagne, il ne peut pas être plus en avant que la personne qui va mourir. En fait, tu vois, il disait parfois, les gens qui vont mourir, ils pensent qu'il reste beaucoup de temps. Et eux, comme les soignants, ils savent que la personne, je ne sais pas, il reste 2 mois. Mais sauf qu'il ne peut pas tout faire pour qu'ils comprennent qu'il va mourir en 2 mois.
Oui.
Après,
je pense, moi, en ayant vécu la situation, je pense que c'est bien d'accompagner tout ça, mais que par contre, la limite, c'est de ne pas infantiliser les gens. Que je pense que c'est aussi un peu les cas. Que quand les personnes sont malades, presque on les retire les droits. Tu vois, je pense que c'est...
D'avoir une autonomie.
Oui, des décisions, et vouloir leur protéger de l'information.
Ah oui, pas tout forcément dire.
Oui. Et donc, ça peut forcer aussi que la personne qui est malade, tu vois, ils ne comprennent pas trop sa situation. Et ça peut être une source d'angoisse aussi.
D'accord. Je propose qu'on écoute un autre extrait, justement sur le rapport à ce moment-là, peut-être des personnes, l'adaptation dans ces situations des patients.
Moi, j'ai l'impression, enfin, je crois qu'on est toutes d'accord là-dessus, les gens, quand ils se rapprochent... on a notre image de ce que c'est que la fin de vie en tant que, et même de la maladie en tant que bien portant. Et puis il y a ce, quand on le vit, il y a ce que donc on s'imagine, ce qu'on projette. Et finalement, la plupart des gens qui sont dans une situation de maladie grave, de maladie incurable, etc. La plupart, ce qu'ils recherchent, c'est finalement à essayer de vivre le plus longtemps possible. Et des choses qu'ils n'auraient jamais adaptées, qu'ils n'auraient jamais acceptées, même l'idée, ça leur serait pas venu du tout, c'était pas envisageable. Ben finalement, on a une capacité d'adaptation en tant qu'humain qu'on voit tous les jours. Mais là, avec la maladie, on a aussi une capacité d'adaptation. Et il y a toujours cette recherche de vivre, finalement, qui est plus forte que celle de mourir. Enfin, sauf quand il y a des douleurs insupportables. Souvent, les gens, quand ils disent qu'ils veulent mourir, c'est parce qu'ils ont des symptômes qui sont insupportables. Mais si tu leur enlèves ça, eh ben, ils veulent vivre.
Alors, c'est un extrait d'un entretien que tu as réalisé, qui n'est pas dans le podcast, hein, que tu as réalisé en amont du podcast. Mais dans le podcast, tu poses la question aussi de l'accompagnement à la fin de vie. Là, pour le coup, aujourd'hui, il y a la possibilité de la sudation. C'est un sujet extrêmement d'actualité, même si ça fait 2 ans que ça a été réalisé. C'était une demande de l'hôpital. C'est toi qui as voulu amener cette question-là, ou c'était un sujet incontournable, peut-être?
Oui, c'était plutôt un sujet incontournable. Et d'ailleurs, l'hôpital, il voulait faire ses projets précisément parce qu'il y avait toutes les discussions. Et c'est un sujet aussi qui est compliqué pour tout le monde, parce que même dans les équipes des soignantes, des médecins, voilà, il y a des visions complètement différentes sur la question. Moi, personnellement, en fait, moi, je suis abordée les sujets un peu comme, je pense que plein de monde, en se disant, oui à l'euthanasie, oui, on a les droits de décider comment on veut mourir, quand on veut mourir, oui, avoir les droits de pas souffrir pendant longtemps, etc. Et en faisant ce travail, en parlant, en fait, avec plein de monde, je me suis rendu compte que la question n'est pas si simple non plus, quoi.
C'est quoi qui t'a amené?
Oui, en fait, c'est... Oui, je continue à croire, personnellement, ça c'est une vision très personnelle, en fait, qu'on devrait pouvoir décider quand arrêter. Parce qu'on en a marre de souffrir, même si ça fait partie de la vie, au bout d'un moment, dire en fait, moi, c'est bout de vie, plein de douleurs, d'immobilité, ou que c'était pas comme ma vie d'avant, je n'ai pas envie de la vivre. Mais là, c'est là où il y a la nuance, que les soignants, ils disaient par exemple que maintenant, il existe la sédation profonde, c'est une loi. Ça signifie que la personne, voilà, elle est endormie jusqu'à ce que la mort arrive. Et donc, ça permet...
Ça, c'est légal. Hein.
Ça, c'est légal et ça existe. C'est méconnu, mais ça existe.
Et ça, juste pour expliquer le concept, c'est donc à un moment, on décide de donner une sorte de sédatif très fort et après la personne...
Oui, c'est une sédation profonde et voilà, et la personne dure les temps qu'elle a duré.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Et,
les critères en amont de... Bon, on va peut-être pas rentrer dans le détail médical, mais
c'est ça, je pense que ça varie. Ouais, j'imagine que c'est aussi c'est différent à cas à cas.
Pardon.
Après, l'euthanasie, c'est, comme il disait quelques soignants, c'est les on-off. On donne une drogue pour tuer, pour arrêter les corps. Donc, c'est là où il rentre les nuances, parce que ça veut dire que la personne qui donne ça, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, il se transforme dans l'assistant de la personne qui va mourir. Donc, de quel droit la loi peut obliger un soignant d'administrer une drogue pour tuer quelqu'un? Il y a des gens qui disent, voilà, les suicides assistés, ça veut dire que la propre personne est capable de prendre les médicaments pour se suicider. Parfois, il est un peu plus accepté, dans le sens que c'est la propre personne qui a la décision à la fin. Et mais, par exemple, qu'est-ce que ça passe dans les gens, dans les cas des gens qui ne peuvent pas bouger et donc qui ne savent pas auto-ministrer des choses. Après aussi... Et ça, c'est une vision plus personnelle par rapport à mon expérience. Par exemple, mon père était malade pendant longtemps. Et je trouve, au Chili, il existe aussi cette option de sédation profonde. Mais sauf que, à mon avis, cette sédation profonde, elle arrivait trop tard. Donc, l'étant des douleurs pas seulement physiques, mais aussi morales, psychologiques, a été très prolongée, à mon avis. Donc, il a trop souffert et il a trop demandé de partir avant. Et donc, la sédation est arrivée, oui, mais à mon avis, elle est arrivée trop tard. Donc, je pense qu'il y a aussi, dans ce type de décision, dans ces moments, il intervient beaucoup la vision de la famille, les visions religieuses, la vision du médecin, plein de choses. Et c'est pour ça que je me disais à quel moment ou comment on fait en sorte que les patients ils soient respectés et en tant qu'adultes. Juste à la fin, en fait.
Ouais. On entend, en tout cas, dans le podcast, dans les témoignages, que ça pose beaucoup de questions de tous côtés, en fait. On ne va pas écouter trop d'extraits pour laisser les auditeurs et auditrices aller écouter le podcast. On vous donnera évidemment le lien à la fin de l'émission. Mais en tout cas, il y a des avis vraiment différents sur ce sujet, avec des nuances qui sont apportées. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que les nuances sont expliquées. Et puis, il y a quand même quelque chose dans les entretiens préalables, donc qui ne sont pas dans le podcast, comme ça on ne spoil pas le podcast. Moi, un chiffre qui m'a marqué sur cette justement demande ou volonté finalement d'aide à la mort à la fin. Je vous laisse écouter ça tout de suite.
Il y a une forme de rassurance de savoir qu'on va pouvoir y accéder.
Les soulager.
De dire, bon, si jamais je le demande, si jamais ça ne va plus, vous me direz que vous pourrez mettre fin à mes jours, qu'il y aura la sédation, une manière de m'endormir définitivement parce que la vie sera trop douloureuse. Mais c'est rare qu'ils le demandent à un moment donné. C'est-à-dire que si on arrive à suffisamment une prise en
à
charge...
À contrôler leurs angoisses,
voilà,
leurs
contrôler les angoisses, les douleurs... En fait, il ne le demande pas. Le nombre de demandes d'euthanasie qui sont maintenues, elles ne sont pas énormes. Hein. Je ne sais plus combien c'est
3%, sur 0,03%.
0,03%
sur.
Ou vraiment, la personne va maintenir une fois qu'elle
est. C'est un chiffre que tu connaissais
avant ça, non.
Avant ça.
Parce que les choses qui disent les soignantes, moi, en l'avant vécu de manière personnelle, en fait. Le schéma, il est vrai, en fait. Nous, on dit quand on est bonne santé, moi, je n'ai pas envie de mourir dans la douleur, ni qu'elle soit très longue. Donc, oui, l'euthanasie, tu m'as vite. Et puis, quand on est confronté dans une situation comme ça, la personne s'adapte, sauf s'il y a la douleur. S'il y a la douleur, il va continuer à demander de mourir. Et puis, quand il y a la mort qui arrive, quand c'est imminent, il y a la pulsion de vie.
Oui, ce qu'on entendait tout à l'heure.
Oui. Et cette pulsion de vie, c'est quelque chose, on va dire, ancré dans nos gènes d'être humain. Donc, même si on a demandé plein de fois qu'on voulait mourir, les derniers moments, on s'accroche à la vie. Donc, c'est pour ça que ça m'a pas surpris que ce soit si peu des gens que finalement, jusqu'au bout, ils vont continuer à demander ça. Parce que finalement, quand les gens ils s'approchent de la mort, il y a cette pulsion de vie qui prend les dessous, quoi.
J'ai été marquée dans le podcast d'un témoignage aussi où je crois que c'est une des soignantes qui expliquait qu'il y avait une personne en fin de vie qui était en plus dans des souffrances, et finalement où ils ont ouvert la porte à dire mais vous pouvez en fait vous laisser aussi partir, et qui disait que la personne est partie une semaine après, comme si ça avait déclenché quelque chose aussi. Et ça me fait penser à ce que tu disais, de s'accrocher à la vie aussi à la fin.
Oui, parce que là c'est ça qui c'est intéressant en fait, dans ces moments, comment il y a tout qui se transforme et les personnes s'adaptent pour cette pulsion de ça. Et cette espèce de vouloir s'accrocher à la vie, on prend des responsabilités ou on a envie de solutionner des choses qu'on ne peut pas. Par exemple, cette personne en particulier ne voulait pas décevoir les personnels qui s'occupaient d'elle. Parce qu'ils avaient été très gentils, donc elle se sentait redébable, donc elle sentait que si elle mourait, en fait, c'était un échec pour eux. Donc elle ne voulait pas leur faire vivre ça. Et il y a des gens qui s'accrochent à la vie, ne veulent pas mourir parce qu'ils ont envie de voir, je ne sais pas, la fête des fins d'année de la petite fille, des choses comme ça, que parfois, on imagine que les gens ne veulent pas mourir pour des grandes choses, des gros sujets, et parfois, c'est pour des choses très petite. Et là, je reviens au nom du podcast. Voilà, qui donnera les croquettes au chat? Parce que parfois, c'est des préoccupations comme ça, très quotidiennes, très minimes. Qui va s'occuper de mon chat quand je ne serai plus là? Qui font que les gens y restent. Mmh. Et après, sinon, c'est l'hôpital qui l'a choisi, ce n'est pas nous.
D'accord.
Voilà, quand ils ont parlé du projet, c'est pour ça que je tiens à les dire, parce que je trouve que c'est un super bon titre. Mais
c'est eux qui ont...
Oui, je ne suis pas l'autrice. Oui. Donc, c'est bien de pas s'approprier de le... voilà.
Et parce qu'ils connaissaient le sujet, qu'ils disaient, voilà, c'était pertinent.
Et du coup, c'est très, très pertinent. Quoi.
Il nous reste seulement 5 minutes, Sally. Donc, voilà, je trouve ça super qu'on ait pu prendre ce temps de parler de tous ces sujets qui sont traités dans le podcast, mais pas de cette manière-là. Ça permet de voir les dessous. Mais dans le résultat final de ce travail, c'est effectivement quelque chose d'assez poétique que tu amènes, que vous avez amené avec de l'émotion, puisque vous parlez de joie, de tristesse. Mais voilà, en traitant de tous ces sujets à travers les voix de ceux qui y sont confrontés, comment tu as réussi, tu as pensé, alors c'est aussi l'entretien au début, mais comment tu as réussi à amener ça en fait, ce chemin qu'on traverse en écoutant le podcast?
C'est pour ça qu'on fait ces questionnaires, parce que ça permet vraiment de tracer un schéma, parce qu'il y a un peu de temps. Les questionnaires durent à peu près 15 ou 20 minutes.
Donc,
les conversations avec les gens, sauf quand les gens ont vraiment envie de beaucoup, beaucoup parler, que ça arrive aussi. Et c'est pouvoir rentrer dans des sujets qui sont compliqués avec un inconnu. Et donc, partir d'une question très simple, voilà, je préfère les jours ou la nuit, voilà. On avance petit à petit. Donc, les questionnaires, il est pensé, il est construit. C'est pour ça que je disais, c'est pas juste des questions récoltées qu'on met en ordre. Non, c'est vraiment une construction logique. Et voilà, j'ai pris beaucoup de conseils aussi de personnel soignant que j'avais interviewé en amont. J'avais lu les livres aussi, La mort intime, des Marie j'arrive pas à prononcer son nom de famille, des Hennessel, qui est très connue, c'est une psychologue française qui était vraiment, qui a mené la création des soins palliatifs en France, et plus d'autres documents, je me suis documentée. Donc, tout ça, ça a permis en fait d'identifier quels étaient les sujets et les schémas à suivre.
Et du coup, l'ordre, d'accord. Eh bien, nous arrivons vraiment à la fin. Donc, je le rappelle, c'est le podcast, son nom, donc, est donc « Qui donnera les croquettes au chat ?» On peut l'écouter sur le site de la compagnie.
Oui, on peut l'écouter sur le site de la compagnie. C'est www.lpoudou, c'est lpudu.fr. Et les podcasts, on peut l'écouter sur l'onglet des médiations culturelles, mais aujourd'hui, on va les remettre à la une du Syngweb pour que les gens puissent les trouver rapidement. Et on va mettre aussi les livres qui ont accompagné, en fait, ces chemins, parce qu'on pense que peut-être il y a des gens qui ont envie
d'approfondir les sujets. Et sur nos réseaux sociaux aussi, on va mettre tous les liens.
D'accord. Donc, il suffit de trouver Elle Plus Haut et de suivre, en fait, vos actualités.
Exactement.
Super. Merci encore, Sally, d'être venue nous parler de ce projet.
Non, merci beaucoup. Voilà, c'est très important et je suis très contente d'être dans ta dernière émission.
Et oui, parce que ce sera donc ma dernière émission aujourd'hui. Je quitte mon poste à Briançon. Bientôt, vous entendrez une nouvelle voix. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis.